Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. L'Académie des sciences morales et politiques distribue chaque année plus de 50 prix, bourses et médailles. Elle remplit ainsi l'une de ses missions que lui a confiée la nation en 1795, celle de suivre les travaux scientifiques et littéraires qui ont pour objet l'utilité générale et la gloire de la République. C'est écrit dans la loi fondatrice de l'Institut de France, le 3 Brumaire en 4. Parmi ces prix, Canal Académie vous présente aujourd'hui et dans cette émission le prix Edmond Fréville. C'est un prix annuel décerné conformément aux vœux de M. Pierre Messmer qui l'avait réorganisé à un ouvrage relatif à la stratégie militaire. Et en 2008, le prix Fréville a été décerné à M. le contrôleur général François Caïto pour son livre « Gagner la Grande Guerre » paru aux éditions Economica. Dans le studio de Canal Académie, j'ai le plaisir de recevoir M. le contrôleur général François Caïto. Bonjour.
Bonjour madame.
Et j'ai également le plaisir de recevoir M. Gilbert Guillaume, ancien président de la Cour internationale de justice, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il a été élu le 5 mars 2007. M. Guillaume, bonjour.
Bonjour, madame.
Messieurs, je crois que vous avez l'un et l'autre beaucoup de choses à vous dire à propos de cet ouvrage. Alors, M. Guillaume, je vous laisse la parole et je vous remercie tous les deux de votre présence.
Merci, madame. Écoutez, je voudrais tout d'abord dire au contrôleur général Caïto et aux auditeurs que le grand plaisir que j'ai trouvé à lire cet ouvrage « Gagner la Grande Guerre » en tant que membre du jury qui a décerné le prix. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir faire partager ce plaisir à d'autres. Dans cette perspective, la première question que j'aimerais poser au contrôleur général Caïto est de savoir pourquoi il a écrit ce livre ? On a écrit beaucoup sur la Grande Guerre. Qu'est-ce qui l'a amené à s'y intéresser plus particulièrement et à rechercher pourquoi les puissances de l'Alliance ont gagné la guerre contre les puissances de l'Entente, contre les empires centraux, et pourquoi elle s'est déroulée de la manière dont elle s'est déroulée ? Donc d'abord, pourquoi avez-vous écrit ce livre, monsieur le contrôleur général ?
Bien, monsieur le président, c'est justement pour comprendre pourquoi, malgré les handicaps sérieux qu'avait la France face à l'Allemagne, le handicap de la supériorité tactique évidente de l'armée allemande, le handicap survenu pendant la guerre de la défection de son principal allié, la Russie, malgré ces handicaps, la France et ses alliés ont gagné la guerre. Et donc, ce que je voulais comprendre, et j'essaye de faire partager à mes lecteurs, c'est le processus qui a amené finalement le pays qui n'était pas supposé gagner la guerre, l'a effectivement gagné.
Alors, j'ai l'impression qu'un facteur qui vous a paru important sont les régimes politiques en présence. N'est-ce pas ? Vous soulignez que dans la Grande Guerre a été la victoire des démocraties et à l'inverse, que le camp des vaincus a rassemblé les empires. Ça vous paraît donc un facteur décisif. Pourquoi est-ce que la force des démocraties ou la faiblesse des empires ont-ils été décisifs ?
La première chose qui m'a frappé, c'est un fait, c'est-à-dire que dans les vainqueurs, dans les grands pays vainqueurs, il n'y a que des démocraties, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les États-Unis. Dans le camp des vaincus, qu'ils soient d'ailleurs les vaincus de 17 ou de 18, il y a les monarchies plus ou moins constitutionnelles qui étaient la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Et donc, c'est un premier fait. Et en prenant le cas particulier de l'Allemagne, principale protagoniste, je pense qu'on peut donner une explication du lien entre le résultat militaire final et les institutions. L'Allemagne, contrairement à ce que souvent on pense, n'est pas en 1914 une démocratie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, en particulier dans les deux domaines fondamentaux dans une guerre qui sont les affaires étrangères, les relations internationales et les affaires militaires. Je rappelle d'abord que le gouvernement n'est pas responsable devant le Reichstag, quand même un des fondements. Mais par ailleurs, le chancelier n'est pas un élu, c'est en fait un fonctionnaire désigné et révocable par le souverain. Mais que ce chancelier est à peine mis au courant des affaires militaires. Il connaîtra le plan Schlieffen, le plan d'attaque allemand, 12 ans après que ce plan a été mis sur pied. Et les affaires militaires donc échappent au contrôle parlementaire, échappent même très largement au chancelier. Elles sont traitées par l'état-major, par le grand état-major. Le seul contrôle, c'est celui du souverain. Mais il se trouve que c'est Guillaume II qui ne se sent pas l'autorité nécessaire pour s'imposer à son état-major. D'où l'absence de relations équilibrées entre chef militaire et responsable politique qui va marquer toutes les décisions allemandes. Et je peux vous en donner...
Oui, il y en a deux qui me paraîtraient particulièrement intéressantes pour les auditeurs. C'est d'abord le déclenchement de la guerre et l'invasion de la Belgique. Et ensuite, la guerre navale totale déclenchée en 1917. Il y a là deux tournants dans la guerre qui me paraîtraient intéressants d'expliquer dans les relations militaires politiques.
Ce sont effectivement deux moments archétypiques de ce que j'avance. En 1914, enfin bien avant 1914, le plan Schlieffen qui commence à s'établir vers 1895, suppose le passage de l'armée allemande par la Belgique pour prendre, en quelque sorte de revers, les armées françaises massées à la frontière lorraine. Ce passage par la Belgique, dont je rappelle que l'Allemagne, comme l'Angleterre ou la France, avait garanti la neutralité depuis
Presque un siècle. Depuis le congrès de Vienne.
Depuis le congrès de Vienne, à l'époque. Donc, le passage par la Belgique, pour l'état-major allemand, est la seule solution possible pour assurer une défaite rapide de la France, qui lui paraît par ailleurs nécessaire pour pouvoir affronter les mains libres la Russie. L'état-major allemand anticipe parfaitement les conséquences, les premières conséquences, c'est-à-dire l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Mais se dit qu'il vaincra si rapidement que les Britanniques qui ont une petite armée de métier ne pourront pas faire grand-chose par voie de terre et qui n'auront pas non plus le temps de faire quelque chose de sérieux sur la mer. Personne ne pose la question, mais si la victoire n'est pas rapide, si les Français résistent plus que vous n'avez prévu, qu'est-ce qu'il se passera? Comment continuerons-nous nos approvisionnements par voie maritime? L'Allemagne a besoin, même pour se nourrir, d'approvisionnements maritimes. L'armée britannique ne s'augmentera-t-elle pas? Et n'aurons-nous pas affaire à une coalition beaucoup plus importante que celle que nous comptions affronter? Et pourquoi personne ne pose la question? Eh bien parce qu'il n'y a personne pour la poser. Le gouvernement... Enfin, le chancelier n'est pas en capacité, même en capacité juridique, je dirais, de la poser.
C'est une question que je me suis posée en vous lisant. On a l'impression, effectivement, que le chancelier allemand de l'époque n'avait pas un rôle particulièrement important. Mais supposons que Bismarck ait été encore chancelier. Nous n'aurions pas eu de démocratie et nous aurions eu un chancelier de fer. Est-ce que vous pensez que la solution aurait été différente ? On ne peut jamais reconstruire l'histoire, évidemment.
Oui, d'abord, il est toujours difficile de reconstruire l'histoire. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que Bismarck, sans Guillaume Ier, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, dès que c'est Guillaume II, il n'y a plus Bismarck.
C'est vrai.
Et donc, le pouvoir de Bismarck n'est en réalité que la confiance de Guillaume Ier. Et donc, je crois que l'exemple de Bismarck, qui a d'ailleurs eu une influence, justement, pour ne pas déclencher une guerre dans les années après 70, c'était, d'une façon dérivée, avec la personnalité de Bismarck, personne ne peut récuser, mais elle n'était agissante que par la confiance d'un souverain qui, lui, était capable de s'imposer à son état-major. Mais on voit quand même bien l'écart qu'il y a entre une espèce de hasard du caractère du souverain et un contrôle démocratique. Je crois qu'on ne peut pas confondre les deux régimes. Et d'ailleurs, la question du passage par la Belgique, très curieusement, a été évoquée en France. Et donc, c'est très intéressant de comparer le passage. En 1912, Joffre, général en chef désigné, décide de poser la question du passage par la Belgique parce qu'il a le même problème que les Allemands, c'est-à-dire que la frontière lorraine est infranchissable. Et le gouvernement lui refuse pour deux raisons principales, dont la première est l'alliance britannique et la deuxième, le souci qu'en aucun cas la France n'apparaisse comme le fauteur de guerre.
L'agresseur.
Le fauteur de guerre, l'agresseur, et donc il faut attendre l'ennemi chez soi. Mais voilà bien une réponse politique tout à fait différente et qui a d'ailleurs eu des conséquences que l'armée britannique a effectivement combattu pendant 4 ans auprès des armées françaises.
Alors est-ce que la situation a été la même en 1917 au moment du déclenchement de la guerre navale totale par l'Allemagne et de l'entrée en guerre des États-Unis comme conséquence de cette guerre navale ?
Je crois que c'est tout à fait la même situation. Nous sommes au début de 1917. L'état-major allemand a fini par être convaincu par l'état-major de la marine que la guerre sous-marine à outrance permettrait de mettre la Grande-Bretagne à genoux. L'amirauté a même promis que ça se passerait en 6 mois. Et donc l'état-major impose la guerre maritime à outrance. Et cette fois-ci, il y a un véritable débat. Il y a même 2 débats. Un débat entre l'état-major et le chancelier, Bethmann-Hollweg, c'est toujours Bethmann-Hollweg. Le résultat est net, c'est Bethmann-Hollweg qui est remplacé par quelqu'un aux ordres, en fait, de l'état-major. Je rappelle que Bethmann-Hollweg a dit, à l'issue de cette décision, que l'Allemagne était perdue. Il avait d'ailleurs tout à fait raison. Il y a un deuxième débat qui se passe au Reichstag. Le Reichstag, curieusement, la majorité au Reichstag est devenue une majorité antigouvernementale, d'ailleurs, allant du centre catholique aux sociaux-démocrates. Et ils sont très dubitatifs sur la guerre maritime à outrance et même déposent vote en faveur d'une résolution de recherche de la paix. Bon, malgré le chancelier, malgré le Reichstag, la décision est prise et on fait la guerre maritime à outrance. Et le résultat est exactement celui qui était prévu, y compris par l'état-major, c'est-à-dire l'entrée en guerre des États-Unis. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'au bout de 6 mois, la guerre maritime à outrance s'est avérée un échec, c'est-à-dire que les Britanniques, essentiellement, mais avec l'appui de la marine américaine et de la marine française, sont parvenus à limiter suffisamment les pertes de fret pour que, par exemple, l'arrivée de l'armée américaine en France ne soit nullement retardée. Là aussi, il y a un contraste important avec ce qui se passe du côté de l'entente. C'est principalement la Grande-Bretagne, bien entendu, qui mène la politique de blocus. Et d'ailleurs, je rappelle que la guerre sous-marine à outrance, c'était une réponse au blocus. Alors, le blocus, en fait, c'est un blocus compliqué parce qu'il fallait non seulement bloquer l'Allemagne, mais il fallait bloquer les pays voisins neutres, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège, pour empêcher que, par ces pays, l'Allemagne soit approvisionnée. Ces pays étaient en même temps, faisaient venir une grande partie de leurs marchandises des États-Unis. Et donc, il y a eu véritablement un contrôle très fin, un processus très fin, politico-militaire, de conduite du blocus, de façon à le rendre de plus en plus efficace, mais sans se fâcher avec les États-Unis. Malgré le vœu de certains militaires d'entente, auraient voulu être plus brutal, l'ensemble politico-militaire a compris que ce qu'il fallait, c'était être efficace doublement.
D'accord. Mais alors, si je comprends bien, votre pensée sur ce point, avant que nous passions à des problèmes plus directement stratégiques, votre pensée sur ce point rejoint un peu celle de Clémenceau. La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires.
Je reprendrai volontiers cette formule en l'assortissant, en tant que militaire, d'un mot de plus, pour être confié seulement aux militaires. Et parce que...
Non mais bien sûr, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, nous avons parfaitement compris. Il faut à la fois que le politique sache ce qu'on va faire et que le militaire puisse l'éclairer sur les moyens et les
moyens. C'est l'équilibre des deux choses qui est nécessaire.
Un jour dans l'histoire revient sur le parcours d'Alexis de Tocqueville, qui fut associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques. Lucien Jaume nous offre une biographie politique fondée sur une correspondance nouvelle et sur une relecture de ses 2 principaux ouvrages. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
avec mes invités, donc le contrôleur général Kaito et Monsieur Gilbert Guillaume de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous évoquons le livre de François Kaito, Gagner la Grande Guerre, paru aux éditions Economica et qui a reçu le prix Fréville 2008.
Alors je vais passer peut-être maintenant à une deuxième série de questions plus directement stratégiques, n'est-ce pas ? J'ai été très frappé en lisant votre livre de voir que tant du côté français que du côté allemand, ce qu'on a cherché constamment, au moins jusqu'en 1917-18, c'était la percée décisive. On voulait remporter une victoire du type classique et cette stratégie, à l'évidence, a échoué et a coûté très cher en termes humains. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur les raisons de cette erreur initiale et les raisons pour lesquelles cette erreur a été poursuivie pendant très longtemps ?
Il me paraît important de dire d'abord, me semble-t-il, pourquoi ça n'a pas marché. Parce que je pense que les réponses sont plus faciles à apporter qu'à la question pourquoi cet échec n'a-t-il pas été anticipé ? Je crois, pour l'essentiel, que la Grande Guerre s'est située à un moment du développement des techniques militaires qui est un moment assez fugace, de quelques dizaines d'années. Ça ne serait pas passé de la même façon 20 ans avant et ça ne s'est pas passé de la même façon 20 ans après, puisque là, hélas, nous en avons une démonstration. Mais c'est un moment où tout concourt à l'impossibilité de la bataille décisive, de la percée foudroyante. Quels sont les facteurs qui rendent cet événement impossible ? J'en vois trois. Le premier, c'est des effectifs de soldats qui sont assez nombreux pour tenir des fronts immenses, la totalité des frontières.
J'ai été frappé par un chiffre dans votre ouvrage. Vous dites à un moment que de Dunkerque à Montbéliard, il y avait 3 soldats par mètre. C'est tout de même un chiffre tout à fait extraordinaire.
De chaque côté.
De chaque côté.
De 700 kilomètres, plus de 2 millions de soldats. Mais c'était un événement totalement nouveau. Par rapport à 1870, c'est une multiplication par 6 des effectifs en Allemagne, qui avait déjà la conscription en 1870, une multiplication par 9 en France. Donc un ordre de grandeur de différence. Donc vous voyez quelque chose de totalement nouveau. Deuxièmement, des moyens de feu qui bloquent le mouvement des fantassins. Les canons à tir rapide, qui apparaissent à la fin du siècle, le 75 français étant le premier, tout à fait à la fin du siècle, 1897. Les mitrailleuses, qui apparaissent encore un peu après, dans les formules utilisables. La première utilisation de la mitrailleuse, c'est dans la guerre russo-japonaise de 1904. Donc des moyens de feu d'une violence inouïe et en particulier sur des troupes à découvert. D'où le fait que les gens se sont immédiatement enterrés. Troisième facteur décisif, un avantage logistique décisif là aussi pour le défenseur. Celui qui attaque et qui malgré les pertes arrive à progresser, conquiert un terrain totalement bouleversé. Vous avez tous vu les photos des champs de bataille de l'époque, terrain totalement progressé, où même à pied, on a du mal à avancer. Celui qui recule garde tout son réseau ferré, ses routes, et donc il lui est beaucoup plus facile de faire venir des renforts, de faire venir de l'artillerie, tandis que celui qui est avancé n'arrive pas à faire avancer ses canons, dont la portée devient insuffisante et est privé d'appui. D'où le fait que chaque offensive se termine au bout de quelques kilomètres, dizaines de kilomètres au mieux, et la contre-attaque, ou d'un certain temps d'ailleurs, a le même fait, ce qui fait que le front est extraordinairement immobile pendant 4 ans. Si on regarde la carte du front de 1914 à 1918, c'est vraiment le regarder à grande échelle pour voir la moindre différence.
Alors pourquoi les états-majors n'ont-ils pas réalisé ce que vous venez de nous expliquer ?
Alors, ça, c'est une question particulièrement difficile. Parce qu'il s'agit de savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui ne sont d'ailleurs plus là pour s'expliquer. La première idée qui était très ancrée parmi les uns et les autres, c'était que il y avait une certaine conscience de l'importance économique, du poids économique de cette guerre, qui arrêtait l'économie nationale, parce qu'on mobilisait tout le monde, toutes les ressources étaient affectées à la guerre. Et l'idée commune était qu'on ne pourrait pas faire la guerre plus de quelques mois. Et que, par conséquent, il fallait la gagner tout de suite. Alors, vous me direz que c'est un raisonnement...
Ça va pour 1914, ça ne va pas pour 1916.
Oui, mais une fois arrêté, les gens se sont dit, comment en sortir ? Si on ne fait rien, ça va être interminable, et donc il faut chercher une décision, ce qui n'est pas anormal. Pour ma part, je vois une autre raison à ce qui s'est passé en 1914... c'est que tous les officiers, de part et d'autre, tous les officiers qui travaillaient dans les états-majors et leurs chefs, avaient été formés dans des écoles de guerre ou l'académie, la Kriegsakademie allemande, qui en est l'ancêtre de toutes les écoles de guerre, à l'idée de trouver dans l'histoire des principes permanents de la guerre. Foch a d'ailleurs écrit sur ce sujet.
Oui, von Schlieffen avait écrit une étude sur la bataille de Cannes. Oui. Hannibal, pour lui, était le modèle. Et du côté français, c'était Napoléon. Alors, je conçois encore une fois très bien ça pour 1914. Mais après les pertes humaines énormes qui se sont accumulées au fil du temps, il a fallu attendre en réalité 1918 pour que les états-majors réalisent qu'il fallait procéder différemment, qu'il fallait faire des offensives limitées en progressant étape par étape sur l'ensemble du front et non pas en cherchant la percée. Pourquoi cette pensée ne leur est-il pas venue avant ?
Il y a eu d'abord deux attitudes de part et d'autre. L'Allemagne, en 1915, par exemple, s'est abstenue d'attaquer sur le front occidental, s'occupant de... De même, en 1917, il n'y a que Verdun, qui est la seule offensive allemande des années jusqu'à 1918, exclue. L'Allemagne est défensive. Du côté français, l'idée, c'était de libérer le territoire national. Et donc, on ne pouvait pas être passif. Il fallait tenter quelque chose. Et ça n'a pas fonctionné. Ça ne pouvait pas fonctionner, d'ailleurs. Mais finalement, on a appris très lentement et un coût humain tout à fait exorbitant. En 1918, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui reprend l'offensive, des offensives totalement absurdes, là aussi décidées sans consultation politique, et qui vont faire que l'Allemagne, qui est dans une situation pas excellente, vu l'arrivée des Américains, mais pas tragique, au début de 1918, va se trouver définitivement perdante dès le 18 juillet 1918. Tandis que du côté français, dès la fin de 17, sous l'influence de Pétain, on met au point des attaques à but limité, avec énormément de moyens et très peu de pertes. Pour la première fois, on perd beaucoup moins de monde en attaquant qu'en défendant.
Le chemin des dames, quand même.
Je parle de la fin 17.
Oui.
Mais Pétain reprend le chemin des dames dans une offensive où il perd 5 fois moins de monde que les Allemands qu'il défendent.
On a perdu
la Malmaison.
On a perdu combien de gens dans le chemin des dames ?
Au chemin des dames, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les pertes les plus importantes de la guerre. Ce sont même l'année 1917...
Ce sont quand même quelques dizaines de milliers de morts.
Ah oui, mais je rappelle qu'il y en a eu 1 400 000 en tout. Et les années les plus terribles pour les Français, c'est 1914 et 1915 surtout. 1917, c'est une usure.
Écoutez, tout ça est tout à fait... passionnant, et je suis persuadé que les auditeurs de Canal Académie qui liront ce livre seront tout aussi intéressés et même passionnés que j'ai pu l'être de voir comment, à travers les rapports du pouvoir politique et du pouvoir militaire, d'une part, et comment, d'autre part, à travers la détermination des stratégies de part et d'autre, cette guerre a été menée, pourquoi elle a duré si longtemps, pourquoi elle a coûté tellement en termes humains et pourquoi elle a été gagnée. Donc, personnellement, encore une fois, je ne puis que redire au contrôleur général Kaito combien j'ai été intéressé par son ouvrage et combien j'en recommande la lecture.
Merci.
Merci, monsieur Guillaume. Merci, monsieur le contrôleur général. Je rappelle les références de votre ouvrage, François Kaito, Gagner la Grande Guerre, aux éditions Economica. Merci à vous deux.